Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Junier Jean-Pierre. Je vais vous montrer votre chambre, après nous parlerons au loyer. Elle se lève. Lui aussi. Et ils sortent de la pièce. Et le conduit à l'étage, longe un couloir, ouvre une porte. Elle la fait rentrer dans une pièce. Elle est petite. Il y a un lit à une place, une armoire, une petite table et derrière un paravent, un coin à la toilette. Il accepte. Les premiers jours ne sont pas faciles. Il faut qu'il s'adapte au rythme de sa propriétaire, ce qui n'est pas évident. Le petit déjeuner, il le prend tranquillement dans sa chambre, puis descend et la retrouve assise sur une chaise à tricoter au salon. Pour sortir, l'on est obligé de passer par le salon. Un salut et l'on sort. Ouf ! Les repas de midi et du soir sont de véritables corvées, seul avec sa propriétaire et la bonne qui les sert, ne sachant quoi dire. La journée, qu'il passe dehors, ne sait pas où aller. Alors, après une petite promenade, il entre au café, où il retrouve de vieux paysans retraités jouant aux cartes ou buvant du rouge. Lui se met à une table tout seul et commande un verre de vin et le journal du coin. Puis, vers les 11 heures, il observe les paysannes qui font leurs courses, car le café fait épicier aussi. C'est la femme du cafetier qui s'en occupe, une bonne grosse, le visage tout rouge. L'après-midi, il fait la sieste et essaye d'écrire ce qu'il a vu et entendu. Au début, cela l'amusait, puis petit à petit, il a abandonné. C'est trop bête, sans intérêt. Et puis, je suis là pour changer de vie, pas pour continuer à être écrivain. Pour le moment, il vit de ses rentes et va chaque mois retirer son chèque à la poste. Petit à petit, il s'enfonce dans cette vie monotone et triste. Ce qui le surprend le plus, ce sont les gens qu'il côtoie et qui trouvent tous normal cette vie. Passer des heures dans un café à boire et jouer aux cartes, parler de choses sans importance. Il ne trouve personne pour discuter. Alors, puisqu'il faut bien parler, il fait comme les autres. Une fois rentré au café, on lui fait un petit signe, il répond, puis petit à petit, on lui dit une phrase, puis il prend son verre et se met à côté des joueurs, il se met à côté du joueur, prend son verre et des journaux. Et un jour, il se met à jouer et à parler comme eux.
18.
Vous avez écrit des noms ?
Oui.
Il marche plus lentement, ne met plus de cravate, s'habille plus décontracté, prend les mêmes tics des consommateurs. Oh oui, oh bien ça alors, ça va Polo, t'as vu, je vais t'en foutre moi, se rase moins souvent, ne se peigne plus, il s'est fondu dans le décor. Sa logeuse reste toujours réservée avec lui. Distante, c'est une vieille fille qui a toujours vécu avec son père. Mais son côté cache un caractère bouillonnant qui ne demande qu'à s'éveiller. En entrant chez lui, Albert se sent là, fatigué. Il se couche et s'endort. Le lendemain matin, il n'arrive pas à se réveiller. La tête lourde, la vue trouble. Il reste au lit sans pouvoir réagir. Au bout d'un moment, c'est sa logeuse qui vient d'entrer. Elle croyait qu'il était sorti comme tous les jours. « Excusez-moi, je croyais absent. C'est jour de congé de ma femme de ménage. Et je venais voir si votre chambre n'avait pas besoin de nettoyage. » Elle voit qu'il ne réagit pas. Elle s'approche du lit. « Vous n'êtes pas bien ? Vous êtes malade ?» Elle se penche, lui touche le front. « Vous avez de la fièvre. Je vais vous chercher le médecin. » Une fois que le médecin l'a ausculté et diagnostiqué une bonne grippe, fait l'ordonnance, est allé chercher les médicaments et les lui a donnés. Elle l'a soigné durant plusieurs jours, nourri, lavé, changé les draps et les vêtements. Tout ceci lui a rendu Albert plus intime. Elle a découvert son corps encore beau. Il était à elle. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Lui, plus il se rétablissait, plus il se rend compte de cette présence féminine. Il la trouve moins laide et même désirable. Un bouton de son corsage défait du démon dévoile un bout de gorge intéressante. Sa jupe, un peu trop relevée, montre ses cuisses. Cela le chauffe. Elle est tellement excitée par lui qu'elle ne se rend pas compte de son trouble. Mais un jour, elle remarque son regard. Durant toute cette période, ils ne sont pratiquement pas parlé. Leurs gestes, leurs regards parlaient et en disaient plus que n'importe quel discours. Quelle leçon pour un écrivain. Un matin, elle est complètement rétablie, guérie, affaiblie, plus sensible. Il a compris très vite qu'elle aussi avait le même désir. Elle va s'asseoir près de lui. Pour lui faire boire un bouillon de légumes, elle lui met la serviette, prend le bol et la cuillère. Approche d'Albert. Lui, il lui prend des mains le bol et la cuillère. Enlève la serviette. Et la tire vers lui. Puis la fait coucher à son côté. Il le sait. Il se met sur elle. Il caresse ses cheveux. L'embrasse sur les lèvres. Il déboutonne son chemisier. Elle se laisse faire. Ça fait si longtemps qu'il avait besoin. Il l'a prise vierge. Elle s'est relevée, pris ses vêtements et sortit de la chambre. Ils ne se sont pas parlé. Lui s'est levé à son tour. Rien n'a changé dans leur comportement dans la journée. Lui l'espère. Si elle veut comme ça, ce sera comme ça, et c'est tout aussi bien. Mais le soir, elle va le rejoindre dans son lit, sans un mot, et le lendemain matin, elle repart en silence. Le temps passe. Albert, de Monsieur Albert, est devenu Albert. Dans le village, il s'est fait remarquer par son habileté pour le bricolage. Un après-midi, qui se promène à la campagne sur la route, il est croisé par une voiture décapotable et croit reconnaître Charles.
J'avais complètement oublié celui d'ancien. C'est dans mon ancienne vie. Que vient faire Charles ici? Mes cauchemars vont-ils recommencer? C'est étrange. Maintenant, j'ai honte de ce que je suis devenu. Oui, j'ai honte. Parce que je viens de voir passer Charles.
Le temps passe, et un matin il se rend compte que la vie qu'il mène est une vie stupide, sans intérêt, que les gens qui l'entourent sont bêtes, alcooliques, qui s'ennuient, passent leur temps au café. Sa femme, ou plutôt la femme avec qui il a une liaison, ne l'aime pas, et lui non plus. Ils font qu'assouvir un besoin naturel, c'est tout.
Pourquoi suis-je tombé dans ce foutoir? Qui m'a mis là? Qui tire les ficelles? On dirait que c'est un romancier en manque d'imagination qui écrit n'importe quoi et met son personnage dans des histoires sans intérêt. Il aurait bien pu me trouver une aventure, je ne sais pas moi, une belle histoire d'amour, la recherche d'un trésor, ou même un meurtre, ou un viol, n'importe quoi, sauf cette médiocrité. Je crois encore être libre de mes mouvements. J'ai qu'à quitter tout ça. Et aller où? N'importe où. Au hasard, je reprends le train comme je suis venu.
Il se lève. Fait sa toilette. Et sort de sa chambre. Il a pris son argent. Au rez-de-chaussée, la femme est à la cuisine à préparer le petit déjeuner. Il sort de la maison sans lui parler. Il se trouve sur la route qui mène à la gare, les mains dans les poches.
Je pars sans bagages. Au hasard.
Zippy. Arrivé à la gare, il va au guichet. Un petit homme maigre, cheveux blancs, est au guichet. Albert lui demande.
Un billet pour le prochain train.
Vous voulez aller où?
N'importe où.
Ça ressemble à une fuite. Une femme qui vous force à l'épouser. Une faillite. Un meurtre. J'adore les romans policiers. Les meurtres. Albert hausse ses épaules.
Même pas. Et puis, vous voyez bien que je n'ai pas de mal. Je suis tombé sur un romancier complètement nul. C'est pour cela que je fuis la médiocrité dans laquelle il m'a mise.
Je vous comprends. Nathalie Sarraut a encore sévi. Ils veulent tous écrire comme elle. Un jour, je me suis trompé. Au lieu de lire, de prendre un roman policier, j'ai pris un de ses livres, indigeste. Et en plus de ça, elle voulait me faire entrer dedans. J'ai cru que j'allais devenir fou. Je me voyais déjà toute une vie dans un de ses romans. J'ai pris la fuite et j'ai préféré me cacher dans un roman de Marguerite Duras. Là aussi, j'ai tout fait. L'on évoluait comme des fantômes dans une maison de femmes, un vrai tombeau. J'ai réussi à m'enfuir parce qu'un lecteur s'est endormi en oubliant de fermer le livre. Et je me suis retrouvé ici. C'est calme, tranquille. Et puis, comme le romancier n'a pas beaucoup d'idées, il nous laisse tranquille.
Quel est votre écrivain?
Il ne faut pas le dire. Pour cette histoire, c'est Albert Leduc. Pour d'autres, M. Janju. Et, etc. Mais le grand patron, ça, il paraît que c'est lui qui nous fait revivre pour la radio, dans l'écran radiophonique. Moi, j'aime assez faire de la radio. Ça aère. J'ai l'impression de vivre. Certains ont le privilège de faire de la vidéo. Mais ça, c'est le grand luxe. Mais je parle. Et vous voulez partir, prendre le train, vous échapper? Je ne suis pas sûr que le train soit une bonne idée pour se sauver. Il adore les trains. Mais enfin, voilà, un billet. Ce train va jusqu'en Savoie.
Combien?
Non, je vous l'offre. Avec ses livres, il gagne suffisamment d'argent sur notre dos. Il peut bien nous payer un petit voyage. Mais compostez votre billet, car certains personnages prennent le rôle très au sérieux, surtout ceux qui jouent au contrôleur. Vous risqueriez d'avoir des ennuis. K.A. Mais il arrive seulement dans 3 minutes. Albert prend son billet, un peu abruti, composte et va sur le quai. Il est dans le train qui roule à vive allure. Toujours le même train, de toute façon, il n'y a qu'un train pour toutes les histoires. Il est seul dans son compartiment, la porte s'ouvre et voit Charles avec le sourire. Bonjour Albert. Albert fait le geste de se lever. Non, restez assis, de toute façon, je ne vous accompagne pas. Je sais où vous allez et je connais par cœur le coin. Il s'assoit à côté d'Albert.
Et je vais où?
Je ne vous le dirai pas. Les lecteurs ne seraient pas contents de le savoir à l'avance. Quant à moi, je viens d'une rediffusion de quelques-unes de mes aventures. Au-delà du commun, les illusionnistes, qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis, le lac de Montrion, et par-delà, le chaos et la mort. Rediffusion radiophonique, épuisée, à plat. Je pars me reposer seul en Italie. Je lui ai bien dit qu'il ne faut plus qu'il pense à moi pendant 2 mois. Car chaque fois qu'il pense à moi, paf, je tombe dans un roman.
Mais qui est-ce?
Le grand patron, celui qui a droit de vie et de mort sur nous.
Mais comment s'appelle-t-il?
Ah, ça, il ne faut pas le dire. Dans cette histoire, c'est Albert Leduc.
Mais c'est impossible, Albert Leduc et moi.
C'est lui qui vous fait croire, mais l'Albert Leduc est censé écrire cette histoire.
Mais qui suis-je?
Un Albert Leduc, ou plutôt un personnage qui est censé être un Albert le Duc, créé par Albert le Duc. Mais Albert le Duc, qui croit être l'écrivain de cette histoire, est inventé de toutes pièces par lui.
Mais qui, lui ?
Le nom qui est sur la couverture, en dessous du titre du livre, ou en écoutant le générique de l'écran radiophonique, vous saurez son nom.
Mais alors, qui suis-je ?
Charles aux épaules.
Chacun a son destin. Nous avons un écrivain. Ce n'est pas plus mal.
Il se lève. Le train s'approche de la gare. Nous sommes à Lyon, Perrache. Je vais prendre le correspondance pour l'Italie.
Ouais.
Nous reverrons sûrement. Il aime bien reprendre les mêmes personnages.
Bonne vacances, Charles.
Et Charles quitte le compartiment. Le train vient d'entrer en gare. Puis, le train a roulé pendant des heures. Albert s'est assoupi. Lorsqu'il se réveille, le train arrive à la gare de Chamonix. Un contrôleur lui a dit que le train n'allait pas plus loin. Il est descendu du train et sorti de la gare.
Merci infiniment.
Au revoir, madame.
Oh, porteur, pouvez-vous ?
Fin de journée d'été, le ciel est encore bleu et il fait jour. Il y a du monde dans les rues. Les gens reviennent de leur promenade en montagne et marchent en regardant les voitures et les magasins. Les magasins pour acheter des souvenirs qu'ils mettront en arrivant chez eux sur le buffet de leur salle à manger. Objets que certains prennent pour des œuvres d'art et qui sont des petites horreurs de mauvais goût. Heureusement qu'un coup de chiffon maladroit ou une dispute nous sépare de ces choses. En plus de ces souvenirs, il y a les cartes postales pour les amis et la famille. Et la glace et la gâterie pour le gosse qui vous accompagne. Un ballon et une canne de montagne aussi. Donc, tout ce petit monde est bien occupé en attendant le dîner. Albert, lui, trouve qu'il y a trop de monde. À 20h, il entre dans un restaurant. Pas trop plein, s'assoit à une table. L'établissement est 3 étoiles. Le maître d'hôtel s'approche de lui. Monsieur, il lui donne le menu. Albert le regarde.
Un potage, une truite.
Vous permettez, monsieur, j'ai l'habitude. Une salade, des cuisses de grenouille, une fondue savoyarde et une tarte aux pommes.
Mais monsieur,
lorsqu'un personnage vient chez nous, il prend toujours le même menu et depuis le lac de Montrion. C'est Marc qui l'a choisi. C'est une tradition vieille de plus de, voyons, des années 80. C'est comme cela. D'ailleurs, notre chef, sachant que vous alliez venir, a déjà préparé le repas.
Bon, puisque vous le dites. Mais moi, vous savez, cuisse de grenouille.
Vous verrez, c'est très bon. Charles non plus n'aimait pas. Mais Marc l'a forcé à en prendre. Il a beaucoup aimé.
Bien, faites comme vous avez l'habitude.
Et de toute façon, monsieur, nous sommes payés que pour ce menu. Autrement, vous seriez obligé de payer avec de l'argent vrai. Pas avec votre argent factice, bon que pour les romans.
Alors, servez-moi.
Et le maître d'hôtel se retire. Après avoir mangé et malgré tout apprécié le repas, comme lui a dit l'auteur, sait ce qui convient le mieux aux personnages de roman, ils ont tous le même estomac. Il est sorti. Il fait nuit, une nuit douce. Il y a encore du monde dans les rues. Albert ne sait où coucher, mais aimerait pouvoir dormir en dehors de la ville pour pouvoir être tranquille. Il va vers un taxi. Pouvez-vous me mener dans un hôtel en retrait de la ville, tranquille, s'il vous plaît ?
Oui, monsieur.
Et il rentre dans le taxi. Pendant que le chauffeur roule, il regarde le chauffeur et se dit qu'il a déjà vu ce visage quelque part.
C'est étrange. Il me semble que vous avoir déjà vu.
Je m'appelle Marc.
Marc ?
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de Marc. Après avoir roulé pendant une heure, le chauffeur s'arrête devant un hôtel au bord du lac.
Mais où sommes-nous ?
Au lac de Montrion.
Quoi ? Encore ce lac ?
Alors vous descendez ? Parce que moi je veux rentrer. Il descend.
Toujours ce lac. Je suis vraiment dans un roman. Je vous dois combien ?
Ça va, c'est le patron qui paye. Et il s'en va. Puisqu'on y est, allons-y. Il entre à l'hôtel. Une femme le reçoit.
J'aimerais une chambre.
Je sais. Je la garde toujours exprès pour les gens comme vous. Venez. Depuis le roman Le Lac de Montrion, c'est toujours la même. Il monte à l'étage et ouvre la porte de la chambre. Il n'a pas changé et je la tiens propre.
Je la prends, merci.
De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Dans le tiroir de la table de nuit, il y a un revolver avec des balles. J'ai l'habitude. Bonne nuit. Elle sort. Il va s'allonger. Une heure plus tard, il se lève. Soupire. Hésite.
Qui suis-je ? Même pas un être humain.
Il va ouvrir le tiroir de la table de nuit. Prends le revolver et l'ouvre pour voir s'il y a des balles. Il sort de sa chambre. Dehors, le ciel est étoilé. Le lac est limpide. Il longe la berge. Se met au bord du lac. Et met l'arme sur sa tempe. Et tire. Il voit, sur le reflet du lac, son corps tombé, mais pas lui. Furieux, il jette l'arme à l'eau.
Encore un coup de ce foutu lac.
Et furieux, court. Il se retrouve sur la route. Une voiture passe sur lui. Elle file à vive allure. Elle est passée sur lui, mais il n'est pas mort. il est retourné à Lyon, apeuré, triste, prostré. C'est la nuit, il marche dans les rues sombres, longe les quais de la Saône. Descend sous les quais. Il est descendu, s'est assis près du bord, c'est sous un pont noir et sale. Tout à coup, arrive vers lui un clodo, grand, gros, sale, habillé de hardes disparates, avec un chapeau noir sur la tête. Le visage rond, barbe parfaite, teint de papier mâché, l'on dirait un personnage irréel. Il s'assoit à côté d'Albert, qui est tellement déprimé qu'il ne fait pas attention à lui. Le clodo lui dit « Alors vous aussi, je vous ai repéré par votre teint de papier mâché. » Il tape la cuisse et lui dit « Ah, vous savez, pour nous aussi, ça a été dur. Je suis Marc, du lac de Montrion, des illusionnistes, de l'homme qui aimait la neige et de beaucoup d'autres. Vous avez lu ?
Je ne vous aurais pas reconnu, comme vous avez changé, vieilli, et dans quel état ?
C'est pénible de jouer toujours la même chose, ça use,
ce lac, toujours ce lac.
Vous y êtes allé, vous ? On y va presque tous. Marc le regarde et le voit triste. Moi aussi, je n'ai pas voulu le croire. Et pourtant, si vous saviez comme nous sommes nombreux dans ce monde, Albert lui dit,
comment faut-il faire pour mourir ?
Rechercher l'auteur pour qu'il nous écrive une fin. Mais attention, si l'auteur meurt, vous restez définitivement comme ça.
Moi, avec une mondaine, et être un auteur nul toute ma vie, toute l'éternité.
Oui.
Et où est l'auteur ?
Autour de nous, il nous écrit en ce moment, nous forme, au fur et à mesure, mot à mot, même ce qui nous entoure. Mais je crois savoir où il habite. Venez, et oui, dans un de ses romans, il a eu la faiblesse de donner son adresse. Allez, venez.
Un petit peu, s'il vous plaît.
Et il le mène devant l'hôtel de chez Albert, qui est surpris. Et oui, les auteurs adorent se mettre dans leur personnage. Bon, je vous laisse. Moi, je ne veux pas en finir. Bonjour. De suite, j'ai à trouver Charles. Albert sonne à la porte. Il est reçu par Albert en robe de chambre bordeaux. Il n'est pas surpris. Il a appris tellement de choses ces derniers temps. Albert le mène à son bureau. Albert, l'écrivain, lui dit
« Je vous attendais. J'en ai assez de la vie et j'ai décidé d'en finir. J'ai trouvé que le plus simple serait de me faire tuer par vous. Je suis venu vous demander la même chose. »
L'écrivain lui dit,
« Tirez-moi, après, vous mourrez. »
Albert lui demande,
« Comment ? Si je ne peux plus vous écrire, vous êtes mort. »
L'écrivain sort de sa poche un revolver et le lui tend. Albert tire. L'écrivain tombe à terre.
Albert attend. Il ne se passe rien. Attends un peu, rien. Il veut prendre l'arme, mais elle a disparu. Il quitte la maison. Retrouve dehors Marc et lui dit ce qu'il a fait. Marc, furieux, lui dit « Il vous a vu. Je vous avais dit que s'il mourait, vous seriez toujours le même personnage. Vous aurez toujours la même vie. Vous avez tué votre maître.
Que faire ?
Rien, rien d'autre que de rentrer dans votre personnage et d'y rester.
Éternellement ?
Vous aurez des vacances pendant de longues périodes où l'on va vous oublier au fond des bibliothèques. Mais quelquefois, il y aura des accidents, vous serez brûlé et vous aurez une chance de ne pas ressusciter. Rentrez chez vous. Mais moi, je suis mon destin. J'ai de la chance, je suis un personnage volant. Je vais d'un roman à l'autre. Albert est entré chez lui. Le corps de l'écrivain a disparu. Il s'est couché. Le lendemain matin, il se retrouve au lit avec sa femme qui lui dit « Tu es enfin réveillé, je vais prendre ma douche. » Elle se lève. Avant de sortir de sa chambre, elle lui dit « N'oublie pas que ce soir nous recevons. » Il est assis dans son bureau, feuille éparse, écrit à la main. Lélie, c'est ce qu'il vient de vivre durant ces derniers mois. Cela ne le surprend pas. Venez d'entendre la cinquième partie d'Entre la Lune et moi, l'écrivain. J'avais décidé, c'était d'arrêter avec ces personnages, et puis de nombreuses années après, ben, je les ai repris. Ils sont repartis pour de nouvelles aventures, comme ils avaient retrouvé, comme par exemple dans Violence et Crépuscule, dans Imami, et puis aussi dans L'Élu, et dans aussi beaucoup d'autres histoires. Sixième partie d'Entre la Lune et moi. Paris, 1999, 3, 5.
Le 2 juin, je vais à Paris, comme toutes les années. Cette année, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de désagréable, parce qu'il m'arrive tellement d'ennuis. Cette année est une des très mauvaises années, une des années les plus catastrophiques pour moi. Tout ce que je fais ne va pas. J'ai commencé l'année en enregistrant ma série d'émissions Imami. 148 épisodes, 148 heures. Multiplié par 4 heures, vous voyez ce que ça peut faire. Dans l'ensemble, les enregistrements se sont bien passés. Je faisais une émission lundi, mardi, mercredi, vendredi et 9 ou 10 la fin de semaine. Là, je suis resté 15 jours à attendre pour faire une émission d'après un test d'un ancien animateur de radio. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai mis 2 jours pour faire 1h30 d'émission. J'aime pas faire les émissions d'après les tests des autres, parce que je n'arrive pas à les lire, et puis, il faut comme il faudrait, et j'ai peur de mal faire. J'ai enregistré encore 4 émissions d'après 4 petites histoires. Je suis acheté un mini-disque Sony pour faire mes enregistrements. Je l'ai acheté parce qu'il y a la fonction répète, la recherche des plages et la programmation comme l'on veut. J'avais 56 cassettes d'1h30 de bruit et musique. Je les ai mis en mini-disque de 74 minutes mono. Chaque cassette à enregistrer, il faut plus de 3 heures chacune. Parce qu'avant chaque enregistrement, il faut que je voie le temps du bruit. Arrêter en mettant le compteur à 0, marquer où le bruit s'arrête, puis retourner à 0 pour enregistrer sur mini-disque. J'ai marqué tous ces bruits et musiques sur un cahier pour cassette. Je me suis servi de ce cahier pour marquer les numéros de plages de bruit. À la fin de la cassette, toutes les pages de bruit ont été mises sur des feuilles. Chaque feuille, sa qualité. Exemple, bruit de rue, mini-disque numéro, une colonne pour plage numéro 1, une pour temps, une pour époque description. Exemple, disque numéro 5, plage 3, temps 2 minutes, époque 1930, etc. Et chaque fiche de bruit est mise dans un cahier rouge où l'on peut les enfiler dans des pochettes plastiques. Voilà le travail. J'ai eu jusqu'à 190 bruits différents dans un disque, un mini-disque. J'ai fait en sorte à ce que chaque mini-disque ait à peu près les mêmes bruits, mais pas de la même façon. Comme cela, si le disque est occupé pour le bruit de la rue, par exemple, et que dans ce mini-disque, il y a un chien, alors ce que je peux faire, c'est prendre un bruit de rue sur un autre mini-disque, comme ça je peux mettre le chien en même temps. Je vais acheter 5 lecteurs mini-disques, 3 pour le bruit, 1 pour la musique et 1 pour enregistrer. J'en ai déjà un, les autres attendront, car il faut que j'économise pour chaque mini-disque 5000 francs. En tout cas, celui-là, ce genre de mini-disque que j'achète, coûte 5000 francs. Et puis c'est long aussi pour les avoir, car il faut attendre au moins 2 mois, si ce n'est pas plus. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années ma vie sublimée. production mise en scène, Junier Jean-Pierre.